Cube Radio.
Sophie Durocher.
Sophie Durocher.
Sophie Durocher.
Mon nom est Sophie Durocher.
Sophie Durocher. Des opinions éclairantes qui font la différence.
Cube Radio.
Bonjour tout le monde, c'est Sophie Durocher. On est mardi et écoutez, je suis peinée, découragée, attristée de voir qu'en 2020, on pense qu'on est ouvert d'esprit, on pense qu'on est tolérant, on pense qu'on vit dans une société d'acceptation et d'inclusion, jusqu'à temps qu'on lise des propos homophobes, des propos débiles, des propos discriminants. Pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que vous l'avez peut-être vu dans le journal, le comédien François Arnault, qui fait une carrière vraiment internationale, a fait son coming out. Donc, il a fait une publication sur les médias sociaux dans laquelle il disait « Bon, ben écoutez, moi, je suis pas juste aux filles, je suis aussi aux garçons, je suis bisexuel, puis voilà, c'est ça, c'est comme ça, puis ça vous plaît pas, tant pis. » En gros, c'est ce que François Arnault a fait. Donc, mes collègues ont fait un texte qui s'intitule « François Arnault fait son coming out », mais quand on lit les commentaires, les amis, c'est décourageant. Des gens qui disent « Ben moi, je l'aimais comme comédien, maintenant, je l'aime plus. » Ah oui? Ah, et tout d'un coup, c'est un moins bon comédien parce que t'apprends avec qui il couche. C'est absolument hallucinant. Je veux pas vous lire les pires commentaires parce que je trouve que ce serait que mettre de l'huile sur le feu et je pense que ces gens-là n'ont pas besoin de publicité. Mais simplement pour dire à quel point je trouve ça triste qu'en 2020, on reproche à des gens ce qu'ils font dans leur chambre à coucher. On pensait qu'on était une société évoluée. Quand je vois ça, j'ai juste envie de pousser un grand. Ben voyons donc.
Sophie Durocher.
Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez
Sophie Durocher.
Ma collègue et amie Denise Bombardier, il va pas avec le dos de la cuillère ce matin dans le journal. Elle parle de rien de moins que le massacre de Montréal. Denise, bonjour.
Bonjour, et ce qui m'étonne, c'est qu'il y a déjà des commentaires après sous le papier dans le journal là, et des gens qui trouvent que j'y vais pas assez fort.
Ah oui.
C'est très étonné, mais j'ai rarement vu quand même des réactions sur ce genre de texte. C'est un texte quand même. On peut dire que ça, il y a une partie d'humeur là-dedans, hein, parce qu'on n'en peut plus quoi quand on vit à Montréal, on n'en peut plus. Et moi, le quartier où j'habite, je suis en fait. Je suis totalement ghettoisée, c'est-à-dire que j'ai des rues qui sont fermées en permanence, la rue Mont-Royal, la rue Saint-Denis maintenant est fermée. C'est incroyable de voir ça. Et avec des trous, comme je dis, Montréal. Vous vous souvenez du film italien? C'est pour ça que c'était Rome, ville ouverte.
Absolument, tout à fait.
Mais Montréal, c'est littéralement ouvert, c'est-à-dire que les rues sont toutes...
Éventrés.
On voit que c'est terrible, éventrés, vous avez raison, voilà, c'est ça. Alors donc, c'est une telle désorganisation dans le regard. Et je vois, là, il y a une dame qui me dit qu'elle est très heureuse, elle a déménagé, elle s'est trouvée une maison au cœur de la ville de Shawinigan, puis c'est quelqu'un de Montréal, vous imaginez? Et elle fait l'éloge de sa rue à Shawinigan, il n'y a pas de trou. Mais elle a quitté Montréal, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui quittent Montréal. Mais je ne sais plus comment prendre cela.
Non, mais on ne sait plus, en effet.
On voit les conséquences que ça va avoir quand la pandémie va être terminée et que là, on regarde ce qui se passe.
C'est absolument terrible. Et Denise, dans votre texte, vous faites très intelligemment la liste des différents maires qu'il y a eu à Montréal, et ce qui m'amène à vous poser la question suivante. Seriez-vous prête à dire que Valérie Plante est la pire, le pire maire que Montréal ait connu?
Depuis que moi, j'ai la conscience, le maire Camille Lienhaute, j'étais toute petite, je me souviens parce que je lui avais été présentée, parce que j'allais chez Madame Audet, puis on avait été récité, c'était celle qui formait toutes les classes.
Oui, les classes de diction.
J'avais récité devant le maire, bon, qui était un... Mais je crois que oui, moi je pense effectivement c'est la pire, parce que c'est la première fois que nous avons quelqu'un qui dirige Montréal et qui est totalement idéologique. C'est-à-dire que ta vision de ce qu'est une ville, hein, et elle va dire c'est la vision de la modernité, c'est la vision de l'avenir. Mais peut-être pour une ville, peut-être à Saint-Roch-des-Aunais ou peut-être à Amos, dans des villes petites. Mais c'est parce que Montréal n'est pas une ville. Montréal est la métropole du Québec. Et c'est une métropole au Canada, parce qu'il y a Toronto, mais c'est le centre économique du Québec. Et,
oui.
Et c'est en ce sens-là que les conséquences sont encore plus terribles, parce que, et maintenant, avec la pandémie, quand on sait qu'avec le télétravail, toutes ces grandes tours, on ne saura pas quoi mettre dedans.
Mais le centre-ville de Montréal, le centre-ville de Montréal, Denise, est exsangue. Je sais pas si vous avez eu l'occasion récemment de vous y promener, mais c'est une ville, c'est une ville fantôme. C'est une ville fantôme, et il faut expliquer, il faut expliquer.
En plein jour, je le sais. C'est la remarque que je me suis posée aussi. Mais c'est pas ça. C'est quand on pense que la ville s'est faite pour des visions qui datent des vieux films, où est-ce qu'on voit tout, puis mon Dieu, que tout le monde est pâmé sur la Hollande. Mais la Hollande, c'est le pays plat. C'est un pays plat et Amsterdam, c'est pas une grande ville, n'est-ce pas? C'est une ville qui a été construite bien avant, une ville du Moyen Âge et quasiment. Et puis donc, et on se promène à bicyclette, mais ici, en plus, il y a une chose qui est aberrante. C'est une aberration de plus. C'est que 6 mois par an, c'est pas circulable pendant l'hiver. C'est une ville recouverte de neige et de glace où on a des températures qui descendent jusqu'à moins 30.
Mais en plus, le vélo...
Le mouvement pour permettre d'avoir droit à des bicyclettes l'hiver dans Montréal, ça fait longtemps. Mais on se disait, c'est des super sportifs qui font ça parce qu'ils prennent le risque tous les jours de se ramasser par terre. Mais c'est pas ça. C'est que la ville est maintenant physiquement organisée pour ça, hein, avec toutes ces pistes cyclables qui sont d'ailleurs déneigées souvent avant les rues de la ville.
Oui, on a vu ça à plusieurs reprises, mais c'est aussi quelque chose de fondamental, Denise, c'est que le vélo, moi je suis tout à fait pour le vélo, puis j'ai absolument rien contre les cyclistes, mais les vélos, il faut se le dire, ça s'adresse à une partie de la population, toute la population âgée, et Dieu sait qu'il y en a de la population âgée à Montréal, ne peut pas se déplacer en vélo. Toutes les populations, tous les gens qui ont des enfants, plusieurs enfants, ne peuvent pas se déplacer en vélo. Tu peux pas aller faire des courses.
Et qui vont faire des courses. Exactement. Ça ne correspond pas à ça. Ça correspond à des jeunes qui vont d'ailleurs qui restent jeunes, des adolescents, on peut dire même, pour qui la bicyclette c'est la motorisation idéale, qui sont célibataires, n'est-ce pas, et qui n'ont pas d'auto, ça c'est sûr, et donc c'est pas nos villes, en tout cas, les villes ici sont pas faites pour ça, à moins qu'on veuille que tout le monde aille faire les courses dans les centres commerciaux, mais c'est exactement ce qui se produit.
Mais oui, c'est ça, on va provoquer un exode. Mais Denise,
proximité,
oui, ils sont exsangues. Oui, alors je suis très contente de votre texte de ce matin, et je pense que je vais vous donner une idée pour une autre chronique qui va s'appeler aussi le massacre de Montréal 2. Est-ce que vous avez entendu parler de la flotte d'éco-brouettes de l'avenue Montréal? Alors, je vous explique. C'est Marie Plourde, donc conseillère municipale, qui a mis une photo récemment de ça. Et moi, les deux bras m'en sont tombés. Alors, puisque on ne peut plus, dans beaucoup de villes du plateau, se déplacer en auto, la solution qu'ils ont trouvée, c'est stationner votre auto en périphérie, allez faire vos courses et procurez-vous cette éco-brouette qu'on met à votre disposition. Vous mettez vos achats, vos gros achats, dans l'éco-brouette qui a l'air d'un truc pour enfants. Là, on nous prend pour des déficients légers, soit des petits enfants de la garderie. Alors, l'éco-brouette a des petits pois blancs sur un fond bleu et on prend l'éco-brouette, Denise, pour se rendre jusqu'à son vélo. Ces gens-là nous prennent pour des crétins.
Allons. Alors, ces gens-là, moi, je suis prête à leur acheter des billets d'avion. Qui s'en aille en Chine, en dehors de Shanghai, et où on se promène en
Wuhan,
dans les Maserati les plus chers. D'ailleurs, la dernière fois que je suis allée, c'est ça qui m'a étonnée, des filles de 20 ans qui conduisaient des Maserati qui valent 300 000 $ Shanghai et dans les grandes villes, quoi, et Pékin, et vous en allez à 200 km de ces villes, et ben, c'est comme ça qu'on vit encore. Et la brouette, évidemment. Ceux qui ont vécu de la brouette, c'est des gens qui ont rêvé de la voiture, n'est-ce pas? Donc, c'est une vision aussi, comment vous dire, c'est une vision tellement hypocrite de la réalité de ceux qui défendent cette idéologie-là. Parce qu'au fond, ils veulent que... D'abord, moi, je me rends compte avec ma voiture. Moi, je me fais donner des coups sur ma voiture quand j'essaie d'entrer dans mon garage dans la rue Marianne.
Qui passe
dans le sens contraire parce que c'est sens unique dans le sens contraire. Ah oui, qui font ça et puis font une doigt d'honneur parce que j'ai une voiture performante.
Vous avez une voiture de luxe, Denise. Vous avez le droit de le dire. On n'a pas besoin de dire quelle sorte de voiture vous avez, mais vous avez une belle voiture parce que vous avez travaillé fort toute votre vie.
On n'a jamais eu de tout à la maison. Et moi, personne. Moi, je viens d'un milieu modeste. Je viens pas. Alors donc, moi, personne va venir me culpabiliser parce que je peux m'offrir des voitures qui sont non seulement confortables, mais sécuritaires au maximum, et qui sont parce que vous savez, parce que personne va me dire, mon Dieu, que t'as des belles bottes. Parce que j'ai acheté des belles bottes, quoi. Non, moi, je ne suis pas là-dedans du tout. Personne ne peut me culpabiliser. D'ailleurs, ceux qui me culpabilisent, moi, c'est ces gens-là qui font de la... Vous savez, ce sont les gens qui veulent avoir l'air pauvre. Les gens qui valorisent la pauvreté, qui voient ça comme un grand romantisme,
C'est des hypocrites.
Et qui n'ont aucun problème parce que ils sont nés avec une cuillère d'argent et maintenant ils veulent faire peuple, quoi, hein. C'est la représentation du peuple. En général, le peuple, le vrai peuple, ce sont des gens qui veulent quand même sortir de la brouette, hein.
Sortir de la brouette. Mais c'est plate, parce que on a connu quand même dans le Kama Sutra, je pense qu'il y a une position qui s'appelle la brouette thaïlandaise. Donc là, on va peut-être connaître la brouette montréalaise. Ça va peut-être devenir une position du Kama Sutra. On ne sait pas, Denise, peut-être que...
Je vais vous dire une chose, ça sera pas... Écoutez-moi bien, si vous voulez m'ouvrir la porte là-dessus. Je ne crois pas que ça va être très, très érotique. Et que les gens, comme disaient les curés quand ils expliquaient l'accouplement humain, disaient, il faut parvenir, le bon Dieu permet de parvenir à l'alléluia de la jouissance. Je pense pas que dans la brouette montréalaise, on va avoir accès à
l'alléluia de la jouissance.
À l'alléluia de la jouissance.
Oui, pauvre Marie Plourde, elle...
Je voudrais quand même terminer sérieusement, oui, si vous allez-y. Permettez là-dessus.
Oui.
Je trouve ça extrêmement inquiétant. Ça dit aussi quelque chose de la désaffection vis-à-vis des fonctions. Qui veut devenir maire? Là, maintenant, je sais que M. Coderre, c'est évident, il attend son heure. Remarquez qu'on pourrait dire, on a eu le maire Coderre, mais on a le maire Coderre allégé, parce que c'est presque dérangeant de voir que même physiquement, on ne le reconnaît pas. Et on sent, il parle de ses émotions maintenant et tout ça. Mais il reste une chose, c'est que si c'est le seul candidat, alors que lui aussi nous aime, je veux dire, a mis Montréal dans une situation, elle n'est pas toute seule, c'est pas elle qui a commencé les travaux, et surtout la façon de les faire, les travaux, c'est pas ces travaux-là, c'est sûr que ça fait des décennies, mais le problème, c'est qu'on les fait pas en même temps, partout, en ouvrant des trous à la grandeur au lieu de centrer. Il y a des ordinateurs maintenant, il y a des programmes pour faire ça. Non, eux, ils ouvrent des trous, ils mettent des cônes, puis ils partent à ouvrir d'autres trous ailleurs, et ça, les trous restent ouverts, ça va rester ouvert tout l'hiver, là. J'en vois, là, la rue Saint-Denis, je crois pas que ça puisse être réglé d'ici le mois de novembre, j'en suis convaincu. Et, en tout cas, pas à la grandeur là où c'est ouvert maintenant. Eh bien, c'est que c'est une, pendant ce temps-là, mais Toronto continue de prospérer et l'économie de Montréal est en danger. Déjà qu'elle l'est avec la pandémie, vous vous rendez compte?
C'est sûr que ça aide pas. C'est sûr que ça aide
pas.
Toutes
ces boutiques qui sont fermées, tous ces restaurants qui ont déjà fermé, tous ces commerces un peu pointus qui existaient dans Montréal, il y avait des boutiques extraordinaires, des terrasses extraordinaires. Maintenant, on est assis sur du bois de grange, et si vous faites pas attention, en tout cas pour les femmes, si vous avez une robe, vous faire attention, parce que quand on s'assoit sur les terrasses dans la rue Mont-Royal, vous risquez de vous rentrer une écharpe dans la fesse quand vous êtes une femme, et que vous avez une robe un peu courte.
Alors c'est difficile après de pratiquer...
On est rendu à ça.
Oui, c'est difficile après de pratiquer la brouette.
C'est ça la vision d'une ville.
C'est ça, c'est difficile de pratiquer la brouette montréalaise quand on a une écharde dans la fesse. Denise, je veux absolument qu'on prenne un petit peu de temps. Oui, il faut bien rigoler un petit peu à travers tout ça. Sinon, c'est trop triste. Je veux absolument qu'on prenne le temps de parler parce qu'on connaît évidemment votre attachement à la langue française et vous avez connu évidemment l'heure de gloire de la loi 101 et on sait que ça s'effrite et que l'OQLF a plus vraiment de pouvoir. Bon, ben là, Québec a quand même décidé de donner beaucoup plus de moyens à l'EQLF, d'engager des gens. Et mon collègue, notre collègue Steve Fortin, vient de publier quelque chose sur le compte du Journal de Montréal, Journal de Québec, un blog où il parle de la réaction des anglophones à ça, le ressac. C'est hallucinant. Les anglophones parlent de la Gestapo, comparent le gouvernement québécois à des nazis. C'est complètement délirant.
Parce que les gens n'ont pas de mémoire, parce que ça, c'est comme ça depuis la loi 101. Je veux dire, Louise Baudouin avait été présentée en reine des SS.
Par le caricaturiste Aislinn dans la Gazette.
Ah ouais, mais ça a toujours continué, ça. Ça a toujours continué. Et je vais vous dire une chose. Dans le cas actuel, je sais que le jeune ministre Jolin Barrette est un homme impatient et que sa patience, il est impatient, mais là, il est obligé de ne pas parler parce que la pandémie occupe tout l'espace, n'est-ce pas? Mais je pense, moi, personnellement, que cette annonce-là, qui est présentée justement au moment où la deuxième vague arrive et que ça angoisse tout le monde, je pense que c'est pas le bon moment de d'annoncer qu'il va avoir une police, parce que là, ils mettent les millions pour avoir des centaines d'employés de plus pour faire la police, quoi. Hein, pour bien vérifier que le français est pratiqué dans les petites entreprises. Je pense que c'est pas le temps de faire de la police quand, en fait, la police, pour empêcher les rassemblements tels qu'on les voit et qui font là encore la manchette ce matin dans le Journal de Montréal, et la distanciation et tout, pas de masque, je pense que c'est pas le temps d'annoncer une deuxième police. Je trouve que le temps pour faire cette annonce-là, c'est dommage que ça passe maintenant. Parce que
oui, mais pour utiliser une expression anglaise, c'est un mauvais timing.
À ouvrir d'autres secteurs d'activité où il faudrait surveiller les gens.
Là, oui, c'est ça, on a déjà la police. Bon, voilà. Denise, simplement pour vous dire, en fin de semaine, et on va conclure là-dessus, je suis allée faire un tour dans le Vieux-Montréal, il y a un nouveau restaurant, Slice and Soda, avec sur le côté un endroit où on peut prendre la pizza pour emporter, et c'est écrit « Take Out ». Slice and Soda, Take Out, en 2020 à Montréal. Ben oui, ben c'est ça, toutes les expressions anglaises. Alors, ouais, il faut réagir. Et moi, je trouve que, bon, ben, le QLF, c'est sûr qu'il y a d'autres chats à fouetter en ce moment. Mais je pense qu'on est capable au Québec de marcher puis de mâcher de la gomme les deux en même temps. Denise, je vous embrasse. J'ai bien aimé parler avec vous de la brouette montréalaise. Et on se reparle mardi prochain. Peut-être d'accord. Pour une autre position du Kama Sutra.
Oh oui, on prend un inventaire qui serait plus confortable qu'une brouette.
Oui, ben pensez à ça pendant les 7 prochains jours.
J'ai pas besoin d'y penser, j'ai déjà tout mis. D'accord.
Parfait, je vous adore. Au revoir, Denise.
Au revoir.
Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres.
Vous écoutez
Sophie Durocher.
Alors que le Québec passe en zone orange, il y en a qui sont en zone turquoise. Ben oui, il y a des Québécois qui ont décidé de partir dans le sud, dans des resorts au Mexique ou ailleurs. Et quand j'ai vu ça aller, je me suis dit, ben moi, je veux leur parler, je veux savoir comment ils ont fait, comment ça s'organise un voyage dans le sud en pleine pandémie. Et je suis tombée sur Facebook, sur Michel W. Duguay, un nom bien connu dans le milieu de la radio. Il a travaillé à peu près pour toutes les stations qu'il n'y a pas au Québec. Donc, Michel W. Duguay, qui est en ce moment même à Cancun, on le rejoint là-bas. Bonjour, Monsieur Duguay.
Oui, bonjour, tu peux m'appeler Michel. Sophie, ça va bien?
Ben, très bien, Michel. Écoutez, j'ai vu donc passer ça, qu'à un moment donné, vous étiez juste tanné d'être au Québec dans le froid ou dans les mesures sanitaires. Vous avez décidé de partir pour le Mexique. Racontez-nous comment on fait pour organiser un voyage au Mexique en pleine pandémie. Comment ça se passe?
Ben, d'abord, Sophie, si tu veux me rassurer, il faudrait dire « tu ».
Ah, OK. Bon, alors, raconte-nous ça, Michel.
Moi, ça s'est très, très bien déroulé. Je suis plus inquiet à lire les fils de presse. Je suis pas mal plus inquiet de ce qui se passe au Québec. On parle de zone orange, ça va à rouge, ça va retomber comme l'hiver dernier dans quelques semaines, je sais pas. Mais ici, il y a que des Mexicains, il y a à peu près pas de Québécois sur place. Moi, je suis dans un très grand hôtel qui s'appelle le Grand Oasis Pyramide. Donc, étant donné que c'est grand, la distanciation est vraiment présente. Puis je suis dans le secteur, si tu veux, VIP, là, parce que j'avais quand même pas envie de m'en aller prendre trop de chance. Alors, c'est immense ici, c'est une pyramide. C'est au bord de la mer, donc il n'y a rien de plus dangereux ici qu'à Montréal, en fait, peut-être même moins.
D'accord.
C'est magnifique. Et quand on part à Montréal, eh ben, faut simplement remplir un ou deux formulaires de COVID. Et ça se déroule très bien dans l'avion, hein, parce que l'avion est à moitié vide. Puis c'est une banquette de différence entre chacun des passagers. Donc, il y a pas de monde. Ça se déroule très bien. Je suis arrivé ici, le bus était à moitié aux trois quarts vide. L'hôtel, il n'y a que des Mexicains. Moi, dans mon aile à moi, où je suis dans le secteur 5 étoiles. Je le dis parce que c'est important de se trouver, oui. de s'en aller dans un secteur de l'hôtel où il y a moins d'affluence.
Mais moi, je veux savoir. Donc, tu décides de partir pour le Mexique, t'appelles un agent de voyage. L'agent de voyage, au bout de la ligne, doit être content en « s'il vous plaît » d'avoir des clients parce que, ces temps-ci, il y a personne qui voyage. Donc, c'est facile d'avoir des billets. T'as voyagé avec qui? Avec Air Canada?
Oui, ça a été facile. Il y a des destinations qui sont plus faciles que les autres. Celle du Mexique est plus facile. Donc, moi, je voyage par... Voyage Air Canada. Donc, c'est un package que j'ai pris pour une semaine. Et puis, c'est tout facile. Je le suggère à tout le monde, en fait, si vous voulez. Mais évidemment, il va y avoir le confinement de deux semaines après. Hein?
D'accord. Alors, donc, quand tu appelles pour réserver, est-ce que on t'informe bien des conséquences? C'est-à-dire que si tu contractes la COVID pendant ton voyage, qu'est-ce qui t'arrive, Michel? Est-ce que tu es assuré à 100% contre la COVID?
Assuré à 100% par Voyage Air Canada et assuré par mon assurance à 100% blindé. L'accès aux hôpitaux ici est facile. Il y a de la place. Contrairement à d'autres endroits ou d'autres pays où si t'attrapes la COVID, eh ben, tu passes en dernier si t'es pas le résident du pays. Mais ici, donc, les hôpitaux sont prêts à nous accueillir. Si on attrape la COVID et l'assurance paie au complet, c'est formel. Hein? C'est formel.
Mais étais en train de me dire, Michel, que si t'attrapes la COVID au Mexique, tu vas avoir plus de chances d'être soigné dans un hôpital que si tu l'avais attrapé à Montréal ou à Québec? Parce qu'ici, les hôpitaux sont vraiment sur le petit bord d'être...
Bonne question.
Ben oui.
Je sais pas. Ça a l'air que ça va pas bien à Québec, puis que l'accès aux hôpitaux, ça commence à être serré. Mais moi, on m'a dit, j'ai encore parlé avec quelqu'un hier, justement, de la ville de Québec, et lui, il me dit, il dit qu'il y a un chum qui est résident ici, médecin québécois, puis si t'attrapes la COVID, ben, t'as instantanément un lit à l'hôpital. Instantanément.
OK. Michel, tu sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de nous écouter en ce moment et qui sont en train de dire, bon, ben là, si Michel W. Duguay l'a fait, moi aussi, je veux le faire. Il reste que, quand même, il y a une responsabilité sociale. C'est-à-dire que, oui, tu vas devoir faire la quarantaine en rentrant, mais il reste que notre premier ministre, Justin Trudeau, a quand même émis une directive en disant, on demande à tous les Canadiens de ne pas voyager à moins que ce soit essentiel. Est-ce qu'il y a une petite part de toi qui sent un petit peu mal aujourd'hui d'être au Mexique ou pas?
Ben, dans les conditions dans lesquelles j'ai voyagé, je me sens pas mal à cause de mon comportement. Parce que je suis arrivé ici, c'était Air Canada, la distanciation était formelle. Je suis rentré dans un petit bus, il n'y avait personne. Je suis dans ma petite bulle ici. 5 étoiles, partie de l'hôtel, VIP, salle à manger à moitié vide. Les Mexicains sont de l'autre côté de l'hôtel. Il y a à peu près personne dans mon aile. Je sors pas. Je fais pas de nightlife. Je vais pas en ville. Je mets pas les pieds en ville. Je reste dans ma bulle.
OK.
Puis après ça, je rentre à Montréal. Fait que je me sens pas coupable. Non.
OK. Mais si, par exemple.
Je fais ça de même.
Ouais, mais je comprends, mais en même temps, tu es conscient, puis j'essaie pas de te culpabiliser, là, on fait juste se parler, là, on se jase.
Absolument, oui, je comprends ta question,
oui. Tu comprends, c'est qu'à partir du moment où le gouvernement dit, ben, on vous demande de ne pas voyager à moins que ce soit essentiel, c'est vrai que c'est contradictoire, parce que t'as le gouvernement qui dit ça, puis en même temps, t'as une compagnie comme Air Canada qui dit, venez-vous-en, wait donc, venez prendre l'avion, on assume tous les frais, il n'y a aucun problème. Fait qu'il y a comme un message contradictoire quand même, non, tu trouves pas?
Ben, un petit peu, Sophie, tu me poses la question, puis je commence à me sentir un peu coupable.
désolé.
T'es en train de gâcher ma journée? Ben non.
Ah, ben non.
Non. Non, écoute, t'as raison, non, mais il y a toujours une petite part de culpabilité. Écoute, j'ai un de mes chums, Georges Gaucher, qui arrive d'un voyage en Italie, a fait toute l'Italie, a fait la Sicile, il est parti seul faire le voyage, a fait sa tournée. Puis, je sais pas, il a mis ça sur Facebook, il n'y avait pas de problème en Italie, zéro problème. Mais bon, évidemment, comme quelqu'un, j'ai quelqu'un, il paraît que la Thaïlande est un pays qui est supposément sécuritaire pour la COVID, j'ai un ami qui veut parcourir le duo en bas de la Thaïlande, faire un espèce de road trip. Ben alors ça, c'est un peu extrême peut-être dans le cas présent, mais en tout cas.
Mais toi, tu te sens en sécurité. OK. L'autre question que je voulais te poser, parce que, évidemment, donc toi, tu as mis ça sur Facebook avec des photos, puis en effet, il a l'air de faire très, très beau à Cancun, puis tu sais, la blague que je faisais, zone orange, zone turquoise, c'est vraiment inspiré des photos que tu as mises sur Facebook. Si jamais ton état s'aggravait, si jamais tu t'attrapais la COVID et que ton état s'aggravait, est-ce que tu compterais sur le gouvernement canadien ou sur le système de santé canadien pour te rapatrier et prendre soin de toi une fois de retour au pays?
Oh, absolument. Moi, je suis convaincu que ça pourrait très bien fonctionner. Mais les premiers soins, si mon état s'aggravait, ben là, il va pas s'aggraver, là, j'ai juste correct, là. Mais si mon état devient, je deviens dans un état de COVID, je suis convaincu que ici, je peux être très bien traité. Je suis pas, tu sais, on offre des voyages, des destinations comme Cayo Coco. Bon, mm-hmm. Tu t'en vas à Cuba, à Cayo Coco. Cayo Coco, c'est un caillou, là, c'est une île, une petite îlot isolée. Je sais pas si ça traite la COVID violemment là, te faire transférer à La Havane. Ben là, je sais pas comment ça marche, parce qu'il n'y a pas d'hôpital à Cayo Coco. Mais ici, il y a des gros hôpitaux, là.
Non, mais ma question, Michel, était plus par rapport au Canada. C'est-à-dire que je reviens à ma question fondamentale. À partir du moment où au Canada, on dit on veut pas que vous voyagiez à moins que ce soit vraiment pour des raisons essentielles, ben t'es un petit peu en train de contrevenir à ça. Donc, si tu reviens au pays, mettons que t'as pas la COVID pendant que t'es au Mexique, mais tu reviens au pays et que tu aurais attrapé la COVID pendant ton voyage, ben tu demandes en fait à tous les autres citoyens canadiens ou les citoyens québécois de payer pour ton hospitalisation ou tes frais de santé, alors que t'as contrevenu à une directive du gouvernement. Tu comprends? C'est un petit peu plus là-dessus que je pense qu'on a le goût de réfléchir, parce que c'est sûr, c'est le fun. Moi, je partirais demain matin là dans le sud aussi, mais je pense qu'on a une question de responsabilité collective.
Oui, je te garantis que dans ta semaine à Montréal, là, Sophie, tu es moins distancée des autres que moi je le suis ici au Mexique présentement.
Je comprends.
Moi, je parle à personne ici, là, je suis vraiment distancée de tout le monde. Okay, l'hôtel est à moitié vide. Dans l'aile dans laquelle je suis, c'était resté occupé à 20%.
Ouais.
Fait que je ne vais pas à l'épicerie, là. L'épicerie, c'est encore, tu sais. Je vais pas dans le métro ici, là. Je vois pas mes collègues de travail, là. Je suis pas dans une salle de conférence, je suis pas dans un bureau.
Tu t'en vas pas au métro, ni au métro. Tu prends pas le métro et tu vas pas au métro. C'est ça. Tu vas pas faire tes courses. Mais, je comprends parfaitement. Écoute, quel genre de réaction t'as eu?
Je vais pas en ville, tu sais. Je vais pas dans les bazars, je vais pas dans les fiestas, puis je vais pas dans des beach parties, puis je vais pas, je suis pas un débile, là. Je vais dans la piscine, on a une piscine privée quasiment ici. C'est, je te jure, il y a vraiment des précautions. Je me suis fait un gros souci là-dessus. Et, non, vraiment, à ce niveau-là, je pense pas enlever quoi que ce soit à personne. Je pense que le comportement au Québec actuellement est assez, par moments, non distancé, fait que je me sens pas coupable, non.
Ben, t'as peut-être vu la une du Journal de Montréal, Journal de Québec, le restaurant à Laval, le Lordia, où les gens faisaient le party samedi soir, aucun masque, aucune distanciation sociale, l'alcool qui coule à flot même passé les heures, donc finalement, t'es peut-être plus en sécurité à Cancun qu'à Laval.
écoute, absolument, puis en parenthèse, là, le comportement actuellement, c'est que les gens s'en sacrent pas mal, là. Parce que tout le monde a son voyage. Moi, je m'en sacre pas, par exemple. Je peux pas dire ça. C'est impossible de pouvoir dire ça. Mm. Surtout quand on est dans le domaine des communications, j'essaie de m'exprimer le plus franchement et le plus intelligemment possible pour pas induire les gens en erreur non plus. Mais je pense que le prix à payer va être les deux semaines de confinement. Ça va être le prix. Tant qu'à l'État qui sera obligé de s'occuper de moi, ben, j'en doute fortement.
D'accord. Alors ça, c'est intéressant. Donc, tu vas évidemment devoir faire le confinement au retour, 14 semaines. Est-ce que quand on part...
14
quand
jours.
Oui, 14 jours. Qu'est-ce que j'ai dit? 14 semaines, excuse-moi. 14 jours. Quand tu pars, quand tu te présentes à l'aéroport et que tu sais que tu pars, est-ce que les autorités, les douaniers, est-ce que les gens, tout le monde te rappelle ces mesures sanitaires-là, ou c'est pris un petit peu par-dessus la jambe quand t'es à l'aéroport?
Non, et non, pas du tout, avec les formulaires. Non, c'est avec le formulaire. Tu remplis le formulaire, il n'y a personne qui verbalement va te faire la mise en garde. Quand tu reviens à Montréal, je le sais parce que ma fille habite en Floride et est venue me voir, et je connais des gens qui ont voyagé. Quand tu reviens à Montréal, je ne sais pas si tu sais un peu comment ça se passe, ben là, tu es retracé avec ton téléphone, hein? La police, la Sûreté du Québec peut te retracer. Ça a l'air que ils vont t'appeler. Moi, ils n'ont pas appelé ma fille, mais ils ont appelé des amis de ma fille. Et la sûreté va t'appeler. Il paraît que la sûreté peut venir cogner à ta porte.
Donc ça, t'en es conscient et tu acceptes ça?
Ben, moi, je vais être chez nous de toute façon. Fait qu'ils viendront cogner à ma porte.
Alors, c'est amusant.
Si je ne ferme pas plus tard à 2 heures du matin, ben là, tout bad. Hein.
Ouais.
Je peux bien leur ouvrir, mais bon.
Michel, il y a beaucoup de gens sur ton fil Facebook que je suis en train de regarder en ce moment. Il y a plein de gens qui te demandent, mon Dieu, comment on fait? Donne-nous le nom de ton agent de voyage. Donc, t'as créé tout un phénomène. Là, il y a plein de gens qui vont vouloir partir dans le sud. Il faudrait évidemment que tous ces gens-là soient aussi respectueux des règles que toi. Mais écoute, ça fait du bien de pouvoir s'échapper comme ça et d'être au bord de la mer plutôt que d'être au bord de la 40.
Si tu savais qu'en plus de ça, Sophie, l'eau est chaude, tu vas venir ici avec ton chum, Richard. Tu diras bonjour à Richard de ma part, la dernière fois que je l'ai vu, c'était au franc-tireur.
Ah oui! Je lui dirais bonjour.
Non, mais moi, j'avais été avec son collègue, c'est son collègue qui avait fait l'entrevue avec moi.
Avec Benoît, oui.
En tout cas, je me rappelle pas. Peu importe. L'eau est chaude, elle est verte, elle est turquoise, c'est beau, la plage est bien nettoyée, il y a des palmiers, c'est vraiment chouette. Et en passant, faut faire attention aux auditeurs, à tes auditeurs, faire attention à choisir l'hôtel, parce que moi, je suis au Oasis Grand Pyramide, là, ici. Hier, j'ai pris une marche, je suis allé au Hard Rock Hotel, et là, c'est un autre beat. C'est trop party, trop de musique forte.
Ah ouais.
Le Marriott est désertique. Alors, faut faire attention à l'hôtel qu'on choisit, là, pour pas que ce soit un hôtel de party, un hôtel de désert, un hôtel de ci, un hôtel de ça. Puis moi, que ce soit juste des Mexicains, c'est quasiment juste des Mexicains ici. Là. Ça me dérange pas du tout, ça me fait plaisir.
C'est ça, puis c'est des Mexicains aussi qui voyagent à l'interne, c'est-à-dire c'est des tourismes intra-Mexique, là. C'est des Mexicains riches qui décident de quitter la capitale pour aller passer quelques temps à Cancun au bord de la mer. Écoute, Michel, ça a été un plaisir de te parler. Je suis excessivement jalouse.
Oui. Peut-être mieux de demander aussi, comme moi je fais affaire avec Michel Tremblay de Voyage Tourbec, mais c'est juste qu'il faut être branché sur un courtier en voyage qui va te dire qu'est-ce qui se passe là où tu vas t'en aller. Pas prendre ça. Je pense que pour cette fois-ci, faut pas réserver tout seul.
Oui, c'est ça. Faut passer par un agent qui connaît ça puis qui t'envoie au bon endroit au bon moment.
Voilà,
pour en effet que ce soit sécuritaire. Ben écoute, ça me rassure beaucoup de savoir que tu prends toutes ces mesures-là et je trouve ça quand même assez singulier que tu te sentes en tout cas plus en sécurité à Cancun qu'à Laval. Je trouve que c'est surtout une journée comme aujourd'hui, c'est assez particulier. Hey Michel, à la prochaine chicane, ça a été un plaisir de te parler.
Hey Sophie, il faut que je te dise, moi je considère que tu es une personne totalement fascinante au niveau des communications et toi et ton chum faites une job. C'est un plaisir de vous entendre et de vous lire.
Bah, t'es vraiment gentil. Écoute, venant de Michel W. Duguay, c'est un sacré compliment. T'es vraiment adorable.
Ben,
alors écoute, va profiter du soleil et de la mer turquoise et profite de la zone turquoise pendant que nous, on reste en zone orange et peut-être bientôt zone rouge. Merci Michel.
Allez Sophie, bonne journée.
Écoute, Monsieur Radio lui-même, Michel W. Duguay, donc qui séjourne en ce moment à Cancun et qui nous donnait les règles, comment faire. Ben, ça a l'air extrêmement facile, là, honnêtement, la façon dont il raconte, ça a l'air simplissime. Bon, en tout cas, il est bien chanceux d'être en zone turquoise, lui.
Sophie Durocher. Entendez les dessous de sa dernière chronique.
Cube Radio.
Bon, j'imagine qu'on a tous poussé un énorme cri d'effroi en prenant connaissance de la une du Journal de Montréal, Journal de Québec, de ce matin, un restaurant à Laval, gros party, méchant party, aucun respect, je pourrais arrêter ma phrase là, aucun respect, point, mais aucun respect des mesures de distanciation, les gens qui dansent, des clients et aussi du personnel qui se promène, pas de masque, le 2 mètres, c'est quoi ça 2 mètres, l'alcool servi bien après les heures où on a le droit de servir de l'alcool, et je pense qu'on a poussé donc tous un gros cri de « Ah non, c'est pas vrai ». Par contre, quelqu'un qui travaille dans le milieu dans la restauration, ça doit être extrêmement frustrant, parce que si toi, tu respectes les règles, ça doit être fâchant de voir qu'il y en a qui les respectent pas. C'est pour ça que je voulais parler à Vianney Godbout. Il est restaurateur à la maison Misonette Bistrot Mignonette et également consultant en restauration. Monsieur Godbout, bonjour.
Bonjour, Sophie.
Votre réaction ce matin en voyant la une du Journal de Montréal, Journal de Québec?
En fait, je suis à la fois scandalisé et pas tellement surpris. C'est ce qui est un peu triste dans tout ça.
Pourquoi pas surpris?
Ben, il y a des établissements, en fait, qui sont restés figés dans le temps, puis qui se comportent. Puis, tu sais, je trouve ça étonnant que ça ne sorte pas plus vite, en fait. Je comprends qu'on n'encourage pas la culture de la délation ou tout ça, en tout cas, pas dans mon cas, sauf que de l'autre côté, l'Ordian en question, là, c'est une salle de banquet où on s'assoyait, les gens payent un prix fixe, et puis la bouffe arrive sur la table, c'est des grandes tablées, on peut être assis avec des inconnus, ça danse toute la nuit, ça fume à l'intérieur depuis toujours. Donc, je veux dire, c'est pas étonnant que les mesures sanitaires n'aient pas été appliquées quand des choses de base comme la loi sur le tabac n'étaient pas respectées déjà. Moi, je trouve que c'est scandalisant. C'est inacceptable parce que dans une période qui est super dure pour la restauration où on se plie à des règles qui sont...
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Mais parce qu'il faut le faire d'un niveau sociétal, être responsable, mais également, parce que je veux dire, quand on voit ça, c'est de la concurrence déloyale, carrément. Nous, on refuse des gens, on exerce des pertes parce qu'on a un taux de labor en bon français qui est trop élevé parce qu'on veut garder notre monde. Pendant ce temps-là, il y en a qui s'en foutent éperdument, qui font sale comble, tout le monde collé. Puis évidemment qu'un client qui est pas trop conscientisé va dire « Ah, ben c'est cool là-bas, il y a pas des plexiglas partout, puis on peut se promener sans masque. » C'est pas tout le monde, je veux dire, on voit les conspirationnistes, tout ça, on voit que c'est pas tout le monde qui vit dans la même réalité. Donc,
c'est ça.
Quelqu'un qui est sceptique par rapport à ce qui est en train d'arriver, c'est sûr qu'il va choisir des établissements comme ça. Et c'est ce qui fait mal à l'industrie de la restauration. Pour moi, c'est une honte. Et puis, je veux dire, on est passé par la prévention, la sensibilisation. Moi, je suis à l'aise qu'on passe par la répression. Mais par exemple, on doit pas punir tout le monde. Sauf que les établissements qui sont fautifs, je crois qu'il faut être très sévère. Puis après, il faut pas que ça se transforme en chercher des poux, puis aller dans des établissements responsables et chercher ce qui cloche, qu'on voit qu'il y a une attitude générale qui a été responsabilisée par rapport à la situation. Donc, faut pas que ça se transforme en des visites policières partout qui nuit aux établissements responsables, parce que, tu sais, on l'a déjà vu, là, tu sais, dans une salle comble, quand il y a 8 policiers, je sais qu'à Montréal, c'était le groupe Eclipse ou des trucs comme ça, c'est scandaleux aussi, parce que quand on est un restaurateur qui fait bien son travail, veut pas le client qui nous connaît pas, qui est chez nous, ça éveille beaucoup d'inquiétude chez eux.
Donc, ben c'est moi, sûr. C'est-à-dire qu'en fait, il faut dénoncer les deux extrêmes. C'est-à-dire que si en effet il y a 8 policiers qui débarquent dans un restaurant, c'est comme une descente, puis ça crée une atmosphère où les gens se disent mon Dieu, il y a pas de fumée sans feu. Si la police débarque, c'est qu'il doit y avoir des affaires pas catholiques qui se passent ici. À l'autre extrême, ce qu'on a vu au restaurant L'Ordia à Laval et ce que raconte la journaliste du journal, c'est que les policiers sont arrivés, puis comme par hasard à ce moment-là, les gens avaient arrêté de danser, tout le monde était assis. Les policiers sont restés juste 10 minutes, ils ont mis aucune contravention, aucun contrat d'infraction, constat d'infraction. Donc, en fait, la police a été trop gentille au L'Ordia.
Mais je pense que les efforts ne sont pas concentrés au bon endroit. C'est sûr que, un permis d'alcool, tout ça, ça devrait être révoqué immédiatement. Je veux dire, ce type de comportement-là n'a pas lieu d'être. Il y a trop de gens qui risquent trop. C'est des retraites qui s'envolent en ce moment. C'est des drames humains qu'on vit. Et puis, des gens qui se comportent comme ça font excessivement mal à l'industrie. Puis, je veux dire, j'ai très peur que ça se transforme en une surveillance policière qui est accrue et dérangeante pour les gens qui se comportent bien. Comme ce que l'industrie des bars et tout ça subit avec, comme je disais, le groupe Eclipse et tout. C'est d'un ridicule absolu. Ils en souffrent depuis des années. C'est pas le sujet d'aujourd'hui. Sauf qu'il faut arrêter de généraliser et de faire mal à tout le monde.
Mais j'ai l'impression, Monsieur Godbout, quand vous avez commencé, que dans le milieu de la restauration, ça se parle. Quand vous nous dites « je ne suis pas surpris », ça veut dire que dans le milieu de la restauration, ça se parle, et vous le savez qu'il y a des délinquants et qu'il y en a qui tournent les coins ronds et qui respectent pas les règles.
Ah, ben on le sait, puis je pense que c'est pas juste les gens de la restauration. Les clients sur place le savent aussi, là, c'est évident. Après, est-ce que c'est honorable? Moi, je serai jamais celui qui va dénoncer qui que ce soit, mais il y a des gens qui font leur travail, puis il faudrait qu'ils le fassent un peu mieux, qu'ils perdent moins de temps aux endroits où ils devraient pas perdre de temps, qu'ils travaillent fort pour respecter les normes. Puis après, c'est facile de ratisser. Comme je dis, si on se dépasse pas à 8 personnes en uniforme dans le même établissement pour achaler tout le monde, mais on peut faire 8 établissements dans le même temps. C'est un constat
oui.
rapide.
Oui, c'est ça.
Il faudrait arrêter d'être ridicule, puis c'est le concept des employés municipaux qui sont 8 autour d'un arbre pour le planter. Oui. C'est la même chose.
Mais c'est intéressant que vous fassiez référence à 8 personnes dans un même établissement, parce qu'il y a Laurent Proulx qu'on a connu à Québec parce qu'il se présentait là en politique. Mais Laurent Proulx, donc, il a fait une sortie dans les médias récemment pour dire que lui, dans un de ses restaurants, je pense que c'est dans le vieux Saint-Charles, là, des restaurants donc à Drummondville, où il y a en effet des policiers, 8 policiers qui sont débarqués en même temps pour faire des contrôles, et il y a une photo qui a beaucoup circulé dans les médias sociaux. C'est une photo où on voit un policier sur son vêtement, sur son costume, c'est écrit crime organisé.
Mais on subit ça depuis longtemps. C'est pas nouveau. Ça, on sort du sujet un peu, mais c'est vraiment quelque chose. Je veux dire, on vit une crise présentement, puis il va falloir. Tu sais, je sais qu'il y a le groupe Equinox à Laval, le groupe Eclipse à Montréal. Il va vraiment falloir que les méthodes changent. Parce qu'ils sont en train de ruiner l'industrie. Des clients qui viennent manger chez nous, on a un groupe Eclipse qui arrive à 8, tout habillé, avec les fusées à la hanche, le crime organisé. C'est ce qui est écrit sur les véhicules patrouilles. Je veux dire, c'est sûr que ça fait du mal aux bars, aux restaurants, tout ça. Tu sais, il y a moyen de mener leur enquête, là. C'est un ridicule absolu pour moi. Habillé en civil, puis dans la discrétion, au lieu de rentrer à 8. Ça, on subit ça depuis longtemps. C'est vraiment pré-pandémie, là. Ça fait quoi? C'est des années. Sauf que c'est un autre sujet. Sauf que c'est comme si on sentait que, au niveau du gouvernement, tout ça, la restauration, l'hospitalité, on est indésirable. Mais pourtant, c'est ce qui fait la renommée de villes comme Montréal. C'est ce qui fait qu'on est mis de l'avant. Donc, c'est ridicule. Je pense que c'est la pandémie révèle que on fait un métier qui est indésirable. On n'a pas de support. Puis on est vu comme une nuisance. Puis il faut absolument que ça change. Enfin, je pense que c'est pas l'opinion du grand public. Les gens aiment venir nous visiter. Les gens aiment sortir, se faire plaisir. Puis il va falloir qu'on ait un peu d'aide. Parce que c'est une industrie qui est en péril et qui souffre. Puis c'est la faute de gens comme le Lordia. Mais c'est aussi la faute d'une généralisation qui fait que les gens responsables se font harceler littéralement. Il faut absolument que ça cesse.
Je comprends, puis c'est un cri du cœur que vous avez lancé à plusieurs reprises. Je veux juste revenir sur l'affaire du restaurant, du restaurant Lordia à Laval. Vous nous avez dit tout à l'heure une concurrence déloyale. Et en effet, si, mettons, 99% des restaurants nous imposent le plexiglas, nous imposent le masque, il faut mettre le masque dès qu'on se lève de notre table pour aller à la toilette ou pour aller à une autre table, où on n'a pas le droit de servir de l'alcool à partir d'une certaine heure, où on n'a évidemment pas le droit de danser, on doit être à 2 mètres de la table suivante, on doit être à 2 mètres des autres personnes à table. Si on fait ça, puis qu'on sait qu'il y a un restaurant où on peut y aller et qu'on n'est pas obligé de faire ça, moi, personnellement, j'irai pas dans ce restaurant-là parce que j'ai pas envie de mettre ma vie en danger pour manger du shish kebab. Mais il y a des gens pour qui c'est un argument. Et donc, ces restaurants-là qui brisent les règles sont en train de tuer le reste de l'industrie.
Totalement. Puis, je veux dire, c'est pas juste des idiots pour qui c'est un argument. C'est des gens qui réfléchissent pas excessivement loin. Sauf que c'est sûr que la perspective d'une belle soirée festive semble plus réaliste dans un établissement qui respecte aucune norme sanitaire. En contrepartie, c'est des établissements comme ça qui vont faire que l'ensemble des salles à manger vont se faire fermer. Donc, il faut vraiment les punir sévèrement. À un moment donné, il va falloir faire un exemple.
Oui.
Puis, il va falloir que ça cesse. Puis, il va falloir un effort collectif, que les clients ne pensent pas qu'à leur petit plaisir, là, l'instant de 3 heures pendant la soirée, fassent un effort de société, un effort collectif pour qu'on passe au travers de la crise puis qu'il reste un peu d'entrepreneurs en restauration. Parce que franchement, là, en termes de choix de carrière, C'est, je veux dire. Et puis quand je veux me consoler, je pense à ceux qui ont des agences de voyage. C'est pas mal que
oui.
je suis rendu là.
Oui, c'est ça, c'est pas vraiment un métier d'avenir, mais en effet, il y a pire, parce que les voyages, évidemment, c'est complètement complètement foutu. Vous nous avez dit tout à l'heure que au restaurant Lordia, qu'il y avait des gens qui fumaient à l'intérieur. Je pense que vous faites référence à l'ancienne administration du restaurant Lordia, parce que c'était sorti dans les nouvelles, c'était en 2016. J'ai retrouvé le texte. Aux tables, il y avait des narguilés, les gens pouvaient fumer de la chicha, les gens pouvaient aussi fumer des cigarettes et des cigares, mais je vous confirme, les propriétaires du restaurant ont changé, donc c'est plus les mêmes propriétaires qui sont là maintenant, mais il reste que ce restaurant-là aujourd'hui fait fi des règlements, et que ça, c'est totalement inacceptable. Vianney Godbout, comment on peut rétablir la confiance des gens, puis leur redonner le goût d'aller au restaurant quand il y a des affaires comme ça, comme l'affaire du Lordia qui vient ternir la réputation de toute une industrie?
Mais je pense qu'il faut pas, penser que quelques récalcitrants qui ont une clientèle, je veux dire, c'est un concept avec sa propre clientèle, tout ça, ça représente pas l'industrie, ça représente pas le milieu, ça représente pas les passionnés de cuisine, là, c'est des commerces qui sont assez à part. Puis pour que ça fasse la première page du journal, un événement comme ça, c'est que c'est un cas isolé quand même. Je veux dire, si c'était généralisé, ça serait encore plus dramatique, mais on en parlerait pourtant un peu moins. Donc je pense, moi, je vois la majorité de mes collègues et la grande majorité même qui font des efforts là, incommensurables là, pour que ça soit sécuritaire dans leur espace puis tout ça. J'ai vu les boîtes de nuit se réinventer comme s'il n'y avait pas de lendemain pour offrir des expériences super, tout est clean. Fait qu'il faut vraiment supporter les gens de l'hospitalité présentement, puis il faut pas que des événements comme ça viennent ternir le travail de tous les autres. Comme j'ai dit, pour les récalcitrants, faut qu'on tombe dans la répression extrême, carrément, mais sans pénaliser les gens qui travaillent fort. Les gens qui travaillent fort, faudrait trouver un moyen de les aider. Puis éventuellement, je vois que la situation de la pandémie va peut-être pas dans le bon sens. Il va falloir prendre une décision entre nous laisser sur le respirateur artificiel à demi ouvert ou à tiers ouvert, parce que là, c'est donner de la corde pour se pendre, parce qu'en fait, c'est complètement impossible de commercer et d'être profitable quand on a autant de bâtons dans les roues, carrément. Donc, à un certain moment, je veux dire, au moins, fermez-nous, mais donnez-nous des aides qui sont ajustées en fonction des coûts fixes de chaque commerce.
Ouais, je pense que c'est vraiment vers ça qu'on va devoir s'en aller, aller vers une fermeture, ce qui serait évidemment extrêmement triste, mais avec une aide financière en conséquence, parce que là on est vraiment en train de jouer sur deux tableaux, c'est très très triste. En tout cas, merci beaucoup Vianney Godbout d'être venu nous en parler aujourd'hui, et je rappelle quand même que vous appelez quand il y a des commerces comme ça, comme le Lordia, qui fait fi de la loi. Je pense qu'en effet votre suggestion de révoquer immédiatement un permis d'alcool, ça devrait être au moins le minimum qu'on exige de ces commerces-là qui sont récalcitrants. Je rappelle que vous êtes restaurateur, donc Maisonnette Bistrot, Mignonnette et consultant en restauration. Merci beaucoup, Monsieur Godbout. Puis
merci,
on va en effet continuer d'appuyer nos restaurateurs qui respectent les règles et qui font les choses selon la loi, parce qu'on vous aime et on a besoin de vous. C'est ça qui fait vivre une ville, c'est les restaurants et les bars. Merci.
Merci infiniment.
Et c'est comme ça que se termine l'émission. Toute une aventure. Vraiment, cette histoire du Lordia n'arrêtera pas de faire couler de l'encre. Vraiment, je décolère pas depuis ce matin. Je voudrais remercier Sébastien Laperrière à la réalisation, à la mise en onde, Hugo Veilleux à la recherche. Puis on se retrouve demain. Il va peut-être y avoir d'autres montées de lait.
Cube Radio.